Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat d'été consacré ce soir à l'exode urbain, possible, probable ou fantasmé après la Covid en partenariat avec le journal Le Drench. À l'ordre du jour, ce soir, assiste-t-on ou va-t-on assister à un exode urbain ? Le Drench est un journal qui met en scène des débats autour de faits de société ou de problèmes politiques, économiques et sociaux. Dans son dernier numéro, son numéro d'été, il s'interroge sur une question fortement mise en scène par les médias depuis les déconfinements, le changement de vie ou l'abandon des villes pour la campagne. Quitter les villes, et la capitale en particulier, n'est pas un phénomène nouveau, mais ce mouvement vient contrebattre une vision du progrès qui, depuis le 19e siècle au moins, devait conduire des populations en situation économique difficile à quitter la campagne pour justement s'installer en ville. Aujourd'hui, des classes aisées quittent parfois la ville pour la campagne, mais aussi pour des villes plus petites. Et ce mouvement touche aussi des individus ou des familles urbaines paupérisées qui voient dans la campagne un moyen de vivre avec moins. C'est ce que nous allons voir avec vous. Florent Guignard, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Donc, vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est Le Drench, ce magazine qui est en partenariat avec Le Temps du débat d'été. Avec nous également Pierre Pistre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, maître de conférence en géographie à l'Université de Paris, spécialiste des dynamiques démographiques dans les campagnes françaises. Avec nous en duplex, Raphaël Languillon-Haussel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant, chercheur, agrégé normalien et vous êtes spécialiste en géographie et aménagement à l'Institut de gouvernance de l'environnement et du développement territorial de l'Université de Genève. Avec nous en studio, Fanny Hugues, bonsoir.
Bonsoir.
Doctorante en première année de doctorat de sociologie au CEMS de l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Geneviève Pruvot et de Claude Rosenthal. Vous travaillez justement dans votre thèse à documenter les trajectoires, le quotidien et les pratiques de débrouille des personnes qui vivent avec de faibles revenus justement dans certains espaces ruraux français. Et enfin, avec nous, toujours au téléphone, Claire Desmarpoirier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes autrice de Exode urbain, vous êtes ancienne conseillère politique, devenue paysanne en Bretagne. Vous nous parlerez de votre expérience et de vos choix.
Oui, exactement. Et puis...
Alors, Florent Guignard, dites-nous ce qu'est le Drench, puisque nos auditeurs ne connaissent pas forcément ce journal.
Bien, le Drench ou le Drench, effectivement, est un journal de débat. Qui a la particularité pour chaque sujet d'actualité d'interroger deux personnes compétentes, légitimes et engagées, l'une qui va défendre le pour et l'autre le contre. Le but étant que les lecteurs puissent se forger leur propre opinion et par cette construction de l'opinion, soit s'engager dans la société en accord avec leurs convictions, soit être plus compréhensif des personnes qui pensent différemment, sortir un peu de sa bulle d'opinion, sa bulle de filtre.
Oui, qui est effectivement le propre même, en particulier des réseaux sociaux. Alors Pierre Pistre, à la question « va-t-on assister à un exode urbain ?», vous dites oui.
Je dis oui, ou en tout cas avec certaines nuances, c'est le positionnement que je défends dans le Drench, des nuances sur lesquelles on pourra revenir, mais effectivement pour moi c'est la notion d'exode urbain pose beaucoup de questions dans la manière de l'utiliser, mais ce qui est une réalité c'est qu'on observe déjà depuis plusieurs décennies des formes migratoires vers les campagnes en France, significatives, et qui, de mon point de vue, peuvent avoir tendance à s'accentuer, ou en tout cas à se renforcer à l'aune de la période de confinement qu'on vient de vivre.
Et puis vous, Raphaël Languillon-Haussel, vous dites plutôt non.
Ah, alors, effectivement, avec cette réserve de quoi est-ce que l'on parle lorsque l'on évoque le fait d'un exode urbain, oui. On parle de ville qui ne correspond pas forcément à une réalité très contemporaine. Et en vérité, je pense que lorsque l'on quitte l'urbain, en vérité, on va vers d'autres formes d'urbain, mais on reste dans cette grande famille de l'urbain.
Voilà, on en discutera avec vous, effectivement. Et je crois que, effectivement, ce qui sera intéressant dans ce débat avec nos deux autres participantes, avec vous, Fanny Hugues, et avec vous également, Claire Desmarpoirier, eh bien, c'est justement peut-être de nuancer ce pour et ce contre. Il n'y a pas simplement du noir et du blanc dans cette question de l'exode urbain, mais également des nuances de gris. Claire Desmarpoirier, vous êtes autrice, pourtant, d'un livre... Exode urbain, justement, sur cette question, manifeste pour une ruralité positive, donc qui paraîtra très bientôt chez Terre Vivante. C'est votre choix, c'est parce que vous considérez effectivement qu'il faut quitter les villes ou que vous avez fait ce choix il y a maintenant une dizaine d'années que de quitter les villes pour vous installer à la campagne?
Oui, vous parliez tout à l'heure de l'exode urbain comme option possible, probable ou fantasmée. Moi, ce que je défends, c'est que l'exode urbain, c'est avant tout une option qui est souhaitable. pour l'avenir de notre société, pour le monde d'après la crise du Covid dans laquelle nous sommes encore totalement dans la crise, et que pour la construction d'un monde plus durable, il y a la nécessité de déconsommer, et pour déconsommer, pour être autonome, pour construire des réseaux de solidarité, pour moi, l'exode urbain est l'option, en tout cas la plus souhaitable, la plus désirable, pour pouvoir construire un monde durable pour chacun et chacune, justement, comme vous le disiez aussi, quels que soient ses moyens économiques, son capital culturel, etc.
Un exode urbain souhaitable donc, mais Fanny, vous travaillez sur l'exode urbain plutôt subi, ou en tout cas des personnes qui n'auraient pas souhaité ça et qui ont subi cette vie à la campagne.
Effectivement, je ne rencontre pas seulement des personnes qui sont parties de la ville pour aller à la campagne. Nombreux et nombreuses sont les personnes qui, en fait, ont grandi à la campagne. Mais dans certaines personnes que je rencontre, certaines ont été contraintes, en fait, de quitter la ville, par faute souvent de moyens économiques, avec aussi une certaine idéalisation parfois et romantisation de la campagne qui, en fait, se révèle difficile à vivre au quotidien.
Sur ce point, Pierre Pistre, effectivement, puisque vous disiez tout à l'heure et vous appeliez à la nuance, justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette idée qui est défendue aussi, on lui donnera la parole dans un instant, par Raphaël Languillon-Haussel, que oui, on peut quitter une très grande ville, on peut quitter Paris, on peut quitter Lyon, on peut quitter Bordeaux, mais peut-être aussi pour s'installer plutôt à Bazas, plutôt à Évreux, ou plutôt dans d'autres endroits qui sont aussi des villes, mais qui sont des villes plus petites.
Alors, si vous me permettez, déjà, la nuance, à mon avis, elle est sur la terminologie, elle est sur la notion d'exode urbain. Elle fait bien sûr référence à le pendant de ce que serait l'exode rural, hein. C'est un terme qui est d'ailleurs pas récent, hein. On le voit apparaître dès le début du XXe siècle en réponse à cette masse de population qui effectivement a quitté les campagnes, disons, du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, majoritairement. Pourquoi on peut considérer que c'est un terme qui est un peu surfait, de mon point de vue, malgré le fait la réalité des flux migratoires qu'on observe, c'est aussi que ça laisse présager d'une tendance très massive du point de vue de la démographie des villes. Moi, la position que je vais défendre et que je défends, c'est que peut-être qu'il va y avoir des flux migratoires relativement importants au départ des villes, mais ils peuvent être significatifs au regard de ce qu'est la démographie des campagnes.
Sur ce point-là, c'est ce que vous disiez, Pierre Piste, on a beaucoup parlé d'exode urbain potentiel suite au confinement et à la crise du coronavirus, mais vous disiez dans votre tribune que finalement c'était un mouvement déjà entamé depuis les années 70.
Alors effectivement, là-dessus il y a un consensus scientifique, hein, pour dire que c'est au tournant des années 1960-1970 que l'exode rural massif français se termine et s'enclenche effectivement toute une phase de reprise démographique dans des espaces ruraux, d'abord en périphérie urbaine, et là-dessus on se rejoindra avec ce que dit Raphaël Languillon, puis progressivement on obtient finalement une diffusion de ces reprises démographiques dans les années 2000 notamment, où là une masse majoritaire, très majoritaire de communes rurales regagne de la population par l'arrivée de nouveaux habitants.
Oui, alors évidemment, vous évoquez ces années 70, un extrait d'une histoire particulière sur France Culture, l'utopie néo-rurale, Domitille Piron et François Test, en 2018, interroger certains de ceux et certaines de celles qui avaient quitté en 1973 la ville pour s'installer en communauté, d'abord en ville et ensuite à la campagne, et créer son mode de vie, disait l'un d'entre eux.
C'était en 1973, donc quelques années après mai 68, qui a été un peu le déclencheur pour moi et toute une bande de copains de changer de vie. Hein. Et déjà, on était donc étudiants à Paris, on vivait déjà en communauté dans un grand appartement. Et puis, on avait décidé d'aller vivre à la campagne. Alors, rétrospectivement, je me dis un peu que c'est comme si en mai 68 on avait voulu changer le monde et que finalement, n'ayant pas réussi, eh ben, on s'était dit on va aller créer notre monde à nous dans un coin perdu. Au début, on est arrivé ici, on s'est dit on va faire notre petite vie à nous tous les sept là. Mais en fait, a posteriori, on se dit que si on avait été vraiment tout seul dans ce cas, bah, je pense qu'on ne serait pas resté, quoi. Socialement, ça aurait été un peu pauvre, quoi. Et donc c'est le fait qu'il y en avait plein partout autour qui faisaient comme nous. On a pu avoir une vie sociale un peu... Alors bon, en même temps, c'était très varié. Il y avait des filles de bourgeois, des filles d'ouvriers, il y avait de tout, quoi.
Il faut de la variété, Claire Desmarques-Poirier, pour faire ce choix, partir. Il faut se dire, on ne sera pas tout seul à le faire, ou on peut le faire aussi tout seul, vous qui êtes autrice de Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive.
Oui, alors je pense que c'est intéressant de parler des vagues de néo-ruraux des années 70, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui ont fait ce choix à cette époque, ils étaient vraiment dans un schéma d'opposition à un modèle dominant. C'était les Trente Glorieuses, quoi. C'était la ville à tout prix, c'était le progrès, c'est la production, c'est la consommation, et c'était aussi la guerre froide, donc il y a quand même aussi une base antimilitariste assez forte à l'époque dans les luttes des néo-ruraux.
Le Larzac en particulier.
Donc c'est des gens, voilà, dans le Larzac en particulier, donc c'est des gens qui se positionnaient complètement à la marge du monde tel qu'il était de manière générale, enfin on va dire mainstream, quoi. Et là, tout d'un coup, eux, ils faisaient un acte extrêmement radical. Aujourd'hui, les gens qui font le choix, et plus encore parce qu'on en parle dans le contexte qui est celui qu'on vit actuellement, c'est parce que la ville est mise à mal, c'est parce que le système productiviste n'a pas d'issue, en fait, parce que consommer et produire de manière infinie dans un monde qui est fini, ben ça n'est pas possible, parce qu'on voit les limites arriver du changement climatique et qu'on parle plus seulement de l'avenir de nos enfants, mais de notre quotidien réel à chacun et à chacune. Quand voilà, aujourd'hui il y a le Covid, mais il y a un an et il y a trois ans, il y a eu aussi des épisodes caniculaires très importants qui l'année dernière ont poussé quand même beaucoup de gens des villes en dehors des zones urbaines parce que c'était insupportable. Donc en fait, il y a ces épisodes où les gens se sentent vulnérables en ville, où il y a l'intime conviction qui arrive que en fait le système dans lequel on est n'a pas tellement d'avenir et qu'on a une responsabilité à construire une alternative et à faire quelque chose d'autre. Donc pour moi, la différence fondamentale entre ce qui s'est passé dans les années 70 et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas le choix que d'inventer une alternative, on n'a pas le choix que d'imaginer une autre manière de vivre, et que les écologistes qui portaient il y a une quinzaine d'années la ville dense, des modèles urbanistes urbanistique plus équilibré, plus aéré, avec des îlots de fraîcheur, etc. Quand on voit les projections à 2030 ou 2040 sur les périodes de canicule dans les centres urbains, on se dit que ça va pas suffire de mettre des balcons et de végétaliser les toitures. La projection de l'exode urbain, c'est aussi celui d'un changement de vie radical et d'un choix de vie. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des gens qui soient partis pendant le confinement à se mettre en sécurité à la campagne, pour moi, c'est pas ça l'exode urbain. L'exode urbain, c'est le choix de vivre à la campagne durablement. Absolument. Et ça, c'est une différence fondamentale.
Tout à fait, Guignard. Raphaël Languillon-Roussel, vous citiez dans votre tribune une statistique de l'INSEE disant qu'il n'y avait que 4,7% de la population qui vit dans des espaces ruraux isolés. Est-ce que ces espaces ruraux isolés, pour vous, c'est la vraie définition, entre guillemets, de l'exode urbain? Et est-ce que ça correspond à ce qu'ont vécu ces personnes qu'on entendait dans le témoignage?
Alors, effectivement, c'est que la ville telle que l'on la pense a beaucoup été transformée durant les Trente Glorieuses, comme il a été dit, effectivement. Et avec, parce qu'une ville, en fait, c'est une centralité, on va dire, unique, des limites assez claires avec ce qu'on appelle la campagne, une identité entre une municipalité, une centralité, un espace de vie, etc. Et en fait, dans les années, au cours de des Trente Glorieuses, cette ville, avec l'étalement urbain, avec le développement de la motorisation individuelle, etc., avec la multipolarisation de l'espace, cette ville a dépassé ses frontières physiques et ses frontières conceptuelles. Et on a basculé de l'ère de la ville à l'ère de l'urbain, qui est beaucoup plus vaste.
Et surtout au brouillage des frontières, justement. C'est-à-dire qu'effectivement, ils s'interpénètrent, ces espaces.
Exactement. Les catégories ne sont plus claires. Et donc, pour rendre compte de cette réalité d'un urbain plus ou moins dense, plus ou moins divers, assez généralisé sur l'ensemble du territoire, l'INSEE a découpé la carte française en trois grandes zones qu'elle appelle les aires urbaines, qui concentrent en gros 85% de la population, ce qu'elle appelle les communes multipolarisées, qui sont sous l'influence de plusieurs aires urbaines ou de plusieurs pôles urbains, qui correspond à 10% de la population, et puis 7400 communes qui regroupent 5% de la population à peu près, qui correspond à des communes qui ne sont pas sous l'influence urbaine, qu'on pourrait appeler du rural isolé. Alors, quand on parle d'exode urbain, on parle d'un exode vers quelle catégorie? Et souvent, c'est dans la catégorie de soit des communes multipolarisées, soit des aires urbaines, mais dans d'autres catégories que les espaces centraux. Et donc, cet exode urbain, il se fait plus au détriment des centralités urbaines vers d'autres types d'espaces urbains qu'au profit véritablement du rural isolé.
Pierre Priste, vous n'êtes pas d'accord?
Effectivement, je pense que c'est une vision... C'est une vision parmi d'autres de la lecture du territoire français qui a été effectivement mise en œuvre notamment par l'INSEE depuis les années 90. Il y a toute une bonne partie des espaces qui viennent d'être appelés multipolarisés, périurbains, pour lesquels il y a de plus en plus de chercheurs qui considèrent que ces espaces ils sont au moins aussi ruraux que urbains en fait. Mmh. C'est des espaces dans lesquels une bonne partie de la population ne travaille pas en ville, dans lesquels il y a beaucoup d'agriculture, dans lesquels la densité est finalement très faible, autant de critères qui font des caractéristiques de ce qui n'est pas la ville finalement.
Et pour vous, Fanny Hugues, avec votre travail de thèse que vous venez d'entamer en sociologie justement sur ceux qui vivent avec de faibles revenus dans les espaces ruraux français, ce sont des gens qui vivent dans des espaces très éloignés ou ils peuvent être en périphérie des villes tout en étant dans des espaces ruraux.
Mais
votre panel, votre enquête porte sur qui ?
Il y a un peu des deux, mais en fait ce que je remarque surtout, c'est qu'en fait les personnes vont se mouvoir dans un espace kilométrique très restreint en fait, même si elles sont proches d'une aire urbaine et d'une ville comme Limoges ou Toulouse par exemple, elles vont avoir des pratiques et quotidiennes qui les amèneront à ne pas aller dans ces aires.
Pour des raisons financières aussi.
Pour des raisons financières, c'est-à-dire que quand on se rend en ville, c'est parce que on a groupé plusieurs achats à faire qu'on a accumulé sur une liste qu'on a mis sur le coin de la table pendant plusieurs jours, ou alors c'est pour notamment des rendez-vous liés à la santé qui contraignent à se rendre en ville, effectivement parce que se déplacer coûte cher. En essence ou en billet de train.
Florent Guignard.
Et justement, même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives de l'impact de la crise du coronavirus sur ces mouvements ou sur ces mouvements de population, l'INSEE publiait ce matin un rapport dans lequel il disait que pendant le confinement, Paris avait perdu 20% de ses habitants et que encore aujourd'hui, les grandes villes n'avaient pas regagné la totalité des habitants qui avaient fui les villes pendant le confinement. On peut aussi imaginer qu'une crise économique va s'annoncer. Est-ce que justement, la campagne fait un peu figure de lieux d'accueil pour ces personnes qui seraient touchées par la crise économique ou en mal de campagne.
Fanny Hugues. Fanny Hugues.
Effectivement, mais en fait, ce que aussi je voudrais rappeler, c'est que il faut aussi des ressources pour s'installer à la campagne. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire je veux m'installer à la campagne, parce que si on peut avoir accès effectivement à la propriété pour quelques dizaines de milliers d'euros, en fait, ça nécessite des travaux, ça nécessite des travaux d'isolation aussi. Il faut pouvoir se déplacer. En fait, il faut. Ce que je remarque aussi, c'est que les personnes qui ne sont pas arrivées ou qui n'ont pas encore créé un réseau d'entraide autour d'elles et qui n'ont pas en fait acquis des compétences qui normalement ont été acquises dans l'enfance, c'est que là en fait il faut réapprendre des compétences et des savoir-faire au niveau de l'alimentation, de l'énergie, de la
construction. C'est-à-dire faire son jardin par exemple.
Exactement.
Pour pouvoir planter des légumes et des fruits.
Rénover soi-même sa maison, même se mettre à faire du vélo en fait. Ces personnes qui n'ont pas eu accès à ces savoir-faire, enfin il faut les réapprendre du moins. Et sans ça, ça devient compliqué et le coût peut être même plus élevé des fois qu'en ville, notamment au niveau de la mobilité.
Alors évidemment, néanmoins, les médias ont beaucoup glosé, et vous l'avez dit, Florent Guignard, et sûrement que nous l'avons fait aussi sur notre antenne, sur ce déconfinement, cette envie de campagne. C'est ainsi que France 2 en parlait il y a quelques jours, c'était le 16 juillet, à propos de Périgord.
Depuis le déconfinement dans le Périgord, les ventes immobilières explosent. Besoin d'espace pour certains, valeur refuge pour d'autres. Cette agence immobilière a enregistré dans la région une hausse de 50% de son chiffre d'affaires par rapport à juin 2019. Le profil des acquéreurs a aussi changé.
Là, c'était vraiment le terrain de chasse des étrangers qui prenaient une petite maison pour la retraite. Là, aujourd'hui, on a énormément de Français.
Les professionnels du secteur craignent que la hausse des prix s'accélère dans les mois à venir.
Claire Desmarques-Poirier, vous qui vous êtes installée il y a déjà un petit bout de temps à la campagne, qui est autrice de Exode urbain, donc manifeste pour une ruralité positive, qui est un choix véritable de votre part. Est-ce que vous pensez que justement ce discours des médias sur ce départ des villes, de gens qui auraient les moyens de s'installer, c'est un discours qui met l'accent sur quelque chose qui est marginal, une sorte d'épiphénomène, ou est-ce que c'est plus intense que ce que l'on en dit ?
Moi, je pense qu'il y a, il y a des projections, que le sujet que vous venez de diffuser, il est très à l'image de la vision que la ville a de la campagne. Mmh. Déjà, le territoire qui est choisi, c'est le Périgord. Mmh. Donc, c'est pas n'importe quel territoire de
avec un accent, avec un accent anglais,
anglais très fort.
Très fort.
Donc, en fait, c'est des territoires, ruraux qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont été évoqués précédemment, quand on parle de territoire rural isolé. Mmh. C'est une campagne qui est déjà un espace de loisirs, qui est déjà une ruralité consommer parce que voilà c'est l'héliotropisme, c'est des espaces où en fait il y a quand même beaucoup de services, et en fait où il y a déjà de la gentrification et où il y a déjà de la spéculation foncière depuis des années, notamment il en parlait avec les populations d'anglais qui venaient acheter des maisons, qui les retapaient, qui les revendaient, etc. En fait, il y a ça sur le littoral aussi. On a les mêmes problématiques sur le littoral, de zones où il y a de la tension. Ça n'a rien à voir avec, en tout cas, l'exode urbain que je défends moi, qui est celui plutôt de l'accueil de populations urbaines dans des espaces ruraux isolés qui ont la nécessité d'accueillir des nouveaux habitants pour maintenir des services, pour maintenir des classes ouvertes, pour où il y a des biens qui mettent des années à se vendre et où du coup la question de la gentrification, enfin donc du coup de la spéculation foncière n'est pas du tout posée de cette manière-là. Je pense que c'est clairement une question de projection. C'est comme l'histoire du coq qui chante trop fort, etc. Pour moi, ça, c'est une projection de l'image que l'on se fait en ville de la campagne. Et donc, les sujets répondent à cet idéal-là, mais c'est très loin du réel.
Justement, sur ce sujet, Raphaël Languillon-Sel, vous parlez des freins qu'il existe justement à un exode urbain. Vous dites qu'il y a des raisons qui hypothèquent complètement cette hypothèse d'un exode urbain. Est-ce que vous pouvez nous les détailler ?
Alors, c'est vrai que, comme il vient d'être évoqué, il y a plusieurs types d'espaces ruraux également. Et moi, je suis, par exemple, d'origine lotoise. J'ai grandi au nord-ouest du Lot, dans un espace assez proche, du coup, du Périgord. Et je vois bien qu'on n'est pas du tout dans ce que l'on pourrait qualifier du rural isolé. On est sur une ligne Paris-Toulouse. Il y a des autoroutes. On a quand même une accessibilité assez favorisé, on n'est pas du tout sur ce qu'on pourrait appeler du rural isolé. Donc en fait, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs types. Et dans les freins que j'évoque, effectivement, qui correspondraient à un exode massif hypothétique de l'urbain vers le rural isolé, donc la catégorie de l'INSEE qui regroupe actuellement 5% de la population, en fait, très rapidement, il y a une série de freins, effectivement. Donc il y a le fait que les emplois sont à créer. Et le marché de l'emploi ne pourra pas accueillir mécaniquement, sur un temps très court, tous les mouvements de la population active potentielle qui pourrait avoir envie d'y aller pour des questions sanitaires, pour des questions écologiques, etc. L'autre élément, c'est que si on pense à un exode urbain massif dans ces territoires-là, mécaniquement, on va recréer de l'urbanisation. Et donc on ne fait finalement que reporter le problème et on recontextualise finalement ce mouvement dans de l'urbain qui va vers de l'espace urbanisé ou en cours d'urbanisation. Donc c'est vrai qu'il y a comme ça des effets un petit peu contre-intuitifs. Bon, après ce qui vient d'être dit évidemment sur ces territoires ruraux en déprise dont il faut maintenir un niveau de service minimum qui correspondrait en fait à un niveau de population minimal, en tant que lotois, je ne peux qu'y adhérer, évidemment.
Ouais. Pierre Pistre, sur cette question.
Alors juste un préambule, juste simplement rappeler effectivement la remarque qui a été faite est très juste. On parle de campagne en général, il y a bien sûr plusieurs types de campagnes, deux grandes façons de les distinguer de mon point de vue. Une logique de densité, effectivement, donc on va se restreindre maintenant dans le discours plutôt à ce qui est de très peu dense. Ou aussi une logique régionale, et je pense qu'on peut citer le travail de Benoît Coquart qui a très très bien mis en évidence.
Formidable travail qu'on a valorisé dans cette émission.
Les différences régionales qui existent en France, et je pense que c'est là ça qu'il faut avoir aussi en tête. Pour ce qui est des freins à l'exode urbain qui vient d'être évoqué, effectivement, il y en a, bien sûr, et je le recontextualiserai aussi par rapport à des choses qu'on a pu observer dans les statistiques depuis une dizaine d'années, qui sont que ces installations relativement importantes jusqu'au milieu des années 2000, elles ont plutôt eu tendance à se tasser à partir de la crise économique de 2007-2008. Mmh. À la fois par des effets individuels de gens qui du coup ne se sont pas lancés dans des projets, mais aussi parce que ces territoires, ils ont évolué. Ils ont perdu des services, des logiques exogènes qui expliquent le fait que finalement des projets se sont moins développés. Par rapport à ce qui a été dit sur la situation actuelle, Oui, effectivement, la logique d'emploi, elle est importante. Ce qu'on observe dans les migrations vers ces territoires, c'est que ça concerne des retraités, mais pas uniquement. Et ça concerne aussi des actifs, des personnes en situation plus ou moins précaire. En tout cas, c'est dans la diversité des migrations qu'il faut penser ces espaces-là.
Fanny Hugues, sur ces questions justement de ces espaces ruraux que vient de décrire Pierre Pistre, vous vouliez poser une question?
Oui, repréciser effectivement, justement, on dit le marché de l'emploi ne peut pas absorber ces gens-là dans les zones rurales. Mais finalement, Fanny Hugues, est-ce qu'on peut vivre à la campagne sans emploi? Que ce soit retraité ou au chômage, ou est-ce que c'est possible ?
En tout cas, on peut vivre sans emploi forcément salarié, c'est-à-dire qu'on peut créer son propre emploi, enfin, dans le sens où j'ai rencontré des personnes qui ont recours du coup à des chèques emploi-service, c'est-à-dire qu'ils vont faire soit des ménages, soit le jardin d'autres personnes, qui vivent au RSA, qui vivent avec de faibles retraites, mais en fait, c'est surtout apprendre à vivre avec de faibles revenus, c'est-à-dire dire en fait pourquoi est-ce que je gagnerais plus, pourquoi est-ce que j'aurais plus, parce qu'en fait j'en ai pas besoin. Et donc en fait moi ce qui m'intéresse c'est les pratiques qui sont mises en place et qu'est-ce qui diffère d'une personne à une autre qui aurait la même somme d'argent mais qui en fait serait plus ou moins précaire et avec un mode de vie, un bien-être plus ou moins élevé.
Vous nous parliez tout à l'heure de Claire Desmarres-Poirier, de ce qui concerne justement ces idées reçues sur l'installation à la campagne, presque oui, la kitchenette et les voisins.
D'accord, on a de l'espace, on pourrait même avoir un chien.
On a l'air pur, le cul des vaches, le chant du coq au petit matin.
Avec un tigre et un babouin, on pourrait peut-être ouvrir un zoo. Mais à tout prendre, je préfère le poisson rouge et le hamster.
Moi je te parle de retour aux sources, d'autonomie et de potager.
Je te réponds, pour la moindre course, faut compter 2 heures de trajet.
Mais j'en rêvais depuis tout petit, moi, de faire comme les vrais agriculteurs.
Donc t'as revendu les VTT, maintenant faut tout faire en tracteur. Je voulais pas mettre les voiles.
Très bien, mon tracteur.
Je voulais juste prendre l'air.
Airbag, BIM, ABS.
Je voulais seulement voir les étoiles cachées derrière les réverbères. Et s'il crève ton tracteur, tu sais même pas changer une roue.
Ça crève jamais une roue de tracteur.
Et les enfants, ils iront à l'école en tracteur.
Et alors, y a pas de honte.
Et pendant les vacances, ils joueront avec les vaches.
J'adore les vaches.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat d'été consacré aujourd'hui à la question de l'exode urbain. Va-t-on assister à un exode urbain avec notre partenaire, le journal Le Drench, et avec 4 invités, Pierre Pistre, Raphaël Languillon-Haussel, Fanny Hugues et Claire Desmarres-Poirier. Est-ce qu'il est difficile, Claire Desmarres-Poirier, de tenir le discours que vous tenez sur l'exode urbain, sur la volonté manifeste justement de rejoindre la ruralité, justement quand beaucoup d'idées reçues traînent dans les films, dans les chansons, dans les lectures qui nous sont proposées généralement?
Oui, alors c'est sûr que... Alors aujourd'hui, je peux le dire, compte tenu du contexte, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai commencé à travailler sur ce projet d'ouvrage il y a 2 ans, dans un contexte qui était totalement différent. Et oui, effectivement, il y avait, où systématiquement, j'avais plutôt des oppositions et des clichés qui m'étaient opposés. Aujourd'hui, évidemment, le message est reçu de manière différente. Moi, ce que je pense, c'est que oui, on a une représentation de la ruralité qui est liée à la période de l'exode rural, c'est-à-dire au chemin inverse. Et en fait, l'exode rural, c'était quoi ? C'était la promesse pour un grand nombre de ruraux qui quittaient la campagne vers la ville pour en fait venir construire la société des Trente Glorieuses, la société de production, la société de consommation qu'on connaît aujourd'hui. Pour ça, on leur a vendu la liberté de l'individu par rapport à la communauté qui les enfermait.
Ce qui n'est pas toujours faux.
Ce qui n'est pas toujours faux, mais on leur a vendu l'individu libre et autonome et les relations électives, on leur a vendu la réussite, on leur a vendu la réussite professionnelle. Tout à l'heure, vous parliez de est-ce que c'est difficile de vivre à la campagne sans emploi ? Oui, mais enfin, en ville, c'est encore plus difficile. Mmh. La question, c'est qu'aujourd'hui, la ville n'est plus l'espace d'inclusion qu'il était dans les années 70. C'est que les promesses de l'exode rural, elles n'existent plus réellement. C'est que quand on n'a pas un capital social important, quand on n'a pas un réseau, quand on fait pas des études qu'il faut, et même quand on fait les études qu'il faut, c'est pas forcément facile. Et la crise qui arrive, c'est ça aussi, hein. C'est la crise de 2008. Moi, j'étais diplômée en 2008 d'une grande école. Déjà, j'ai senti ce que ça voulait dire d'avoir bien travaillé à l'école et tout ça, et que ça marche pas forcément comme c'était prévu. Je pense que les jeunes qui sont diplômés aujourd'hui, même des études supérieures, vont se retrouver face à un marché du travail en grande difficulté, face à une grande précarité, et donc être en ville pour eux va être un défi. Donc je pense qu'il faut repenser le rapport à la ville et la projection de la ruralité. Moi, je travaille beaucoup là-dessus dans la communication que je mets en place aussi sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., pour réaffirmer de manière positive ce qu'est la ruralité. J'adore le travail de Benoît Coquart. Je pense qu'il faut parler des vrais problèmes. Il faut en parler avec les mots justes, comme il le fait. Puisque la projection de la ruralité, c'est plutôt la cambrousse, c'est pas la ruralité en situation de grande précarité comme justement. Celle que décrit Benoît Coquart. Pour moi, c'est l'enjeu de la Rural Pride, quoi.
Et justement, sur ce thème, conséquence directe de la crise du coronavirus, l'Union européenne a adopté un plan de relance de 750 milliards d'euros, dont 7,5 milliards devraient être consacrés au développement des zones rurales. Peut-être sur cette question, Raphaël Languillon-Haussel, on n'a pas forcément on se représente pas forcément très bien ce que représente 7,5 milliards, surtout à l'échelle de l'Union européenne. Oui. Et finalement, est-ce que ça suffirait à lever des freins ou à lever certains de ces freins que vous évoquiez sur le peuplement des zones rurales?
Alors, évidemment, ça dépend comment est-ce que ces 7,5 milliards d'euros sont dépensés et où est-ce qu'ils le seront. Ce qu'il est certain, c'est que les espaces ruraux ont été confrontés à une forme de recul des services publics, de rationalisation des services publics, à une forme de déprise économique. On peut penser par exemple au petit commerce ou ce genre de choses dans certains espaces ruraux, évidemment pas dans tous. Et donc pour accueillir une population qui reviendrait ou en tout cas qui viendrait des espaces urbains, il faut évidemment que l'offre de services, que l'offre commerciale, que les institutions comme les écoles par exemple suivent. Et ça demande effectivement que soient injectées dans ces territoires-là des quantités importantes de financement public et de financement privé pour pouvoir répondre à cette nouvelle demande de population entrante.
Oui, Fanny Hugues, il y a quelque chose de très intéressant dans le travail que vous êtes en train de mener pour votre thèse en sociologie, qui s'intéresse avec ce titre « Vivre de peu en zone rurale » à la façon dont on peut se débrouiller, à la débrouille en zone rurale quand on n'a pas beaucoup de moyens. C'est tout ce que vous mettez en place pour réfléchir à ce que vous appelez les pratiques précapitalistes, ce que vous appelez aussi le bricolage, la résistance, tout le travail de low-tech, comme on dit, qu'on doit mettre en place justement pour pouvoir, avec peu de moyens, s'installer et vivre décemment à la campagne.
Oui, effectivement, je m'intéresse aux personnes qui ont recours à des pratiques non marchandes, principalement, du coup, que j'appelle péricapitalistes, en reprenant le terme d'Anna Tsing, c'est-à-dire qui se font à côté du capitalisme et pas en fait en dehors, parce que par exemple on a un fort recours aux palettes pour faire beaucoup de construction, et donc ces palettes sont représentent un peu l'industrie aussi capitaliste, etc. Et donc en fait effectivement ce sont des pratiques qui sont nécessaires pour en fait ne pas avoir à acheter à chaque fois et donc à se déplacer. Et donc ça va passer par se déplacer en covoiturage, en vélo, en stop, faire un potager ou alors faire du troc de temps, c'est-à-dire aller chez des maraîchers, échanger son temps en échange d'un panier de légumes. Ça va être aussi en fait rechercher les promotions, les meilleures promotions dans les supermarchés.
Et dans les entretiens que vous faites justement pour votre travail de thèse, est-ce que les gens que vous interrogez sont dans un enthousiasme aussi fort que lorsqu'ils sont arrivés dans ces espaces ruraux, ou est-ce qu'il y a de la déception, de la tension liée justement à cette idée que cet espace serait moins accueillant que ce qu'on imaginait, moins plein de capacités pour pouvoir justement se débrouiller?
Bah déjà, au-delà des entretiens, je fais de l'observation ethnographique, c'est-à-dire que je reste plusieurs jours chez les personnes, et donc ça permet aussi de voir des fois ce qui se cache ou ce qui n'est pas dit derrière le discours de l'entretien. Et donc, en fait, donc comme je disais, il y a quand même la majorité des personnes qui ont grandi à la campagne, que ce soit celle-là ou une autre, mais dans les personnes qui sont arrivées, il y a des personnes clairement qui se retrouvent endettées, qui en fait se retrouvent, par exemple, loin du bourg, dans une maison qu'il faut retaper, avec une voiture qui tombe en panne, avec deux chèvres qu'on achète, mais en fait, on sait pas trop quoi en faire. Et donc c'est souvent l'intégration en tant que bénévole dans des associations type Secours Populaire qui va permettre aussi de créer un réseau social.
Florent Guignard, une question. Pierre Pistre, vous disiez que à la question finalement va-t-on assister à un exode urbain, la réponse dépendait beaucoup de choix politiques et notamment de politiques d'aménagement du territoire. À votre avis, peut-être si on peut se risquer à un exercice de prospective, les choix politiques qui s'annoncent vont-ils permettre cet exode urbain?
En tout cas, mon point de vue, c'est qu'ils doivent permettre de l'accompagner, parce que c'est un phénomène qui existe, qui risque de se renforcer du point de vue des aspirations des personnes, des individus, des familles, sur des profils relativement variés socialement.
56% des Français déclarent vouloir quitter la ville. Cette statistique date d'avant le confinement.
Les enquêtes, les sondages qui demandent aux Français est-ce qu'ils préféraient vivre en ville ou à la campagne, effectivement, il y en a depuis longtemps et c'est à peu près constant. Il y a une majorité de personnes qui déclarent préférer la vie rurale dans l'absolu, ou de la vie à la campagne en tout cas. Pour ce qui est de effectivement, le rôle des pouvoirs publics, de mon point de vue, il est de deux façons. Il y a un rôle d'accompagnement et je pense que déjà, c'est maintenir des activités ou des services qui sont déjà présents et qui, effectivement, la tendance est nette et reconnue par beaucoup de spécialistes en régression de services publics ou en recomposition de certains services publics. Se pose ensuite, effectivement, de l'accompagnement de formes d'activités de travail. On n'a pas du tout encore évoqué un serpent de mer de la question qui est le télétravail. Je pense que ce qui a changé fondamentalement avec le confinement, c'est l'expérience du télétravail pour une partie de la population. On est aussi sur quelque chose de très sélectif socialement, en termes de métier. Mais là, on a quelque chose qui était inédit par rapport à la situation du confinement.
Oui, on peut imaginer que je suis élu rural d'un gros bourg de 2500 à 5000 habitants. Je vais essayer d'adapter justement cette demande à ma ville ou mon bourg en, par exemple, faisant venir des moyens justement de fibres, par exemple. Mais je vais pas forcément y parvenir. Je vais introduire de la déception entre ceux qui vont faire le chemin pour venir vers moi et ne pas parvenir à avoir la bonne connexion qui leur permet de travailler en télétravail. Tout cela, ça fait partie aussi des données.
Bien sûr, ça fait partie des questions. Effectivement, si quelque chose s'est amélioré clairement dans les campagnes depuis 10, 20 ans, c'est quand même la connexion numérique qui s'est améliorée, qu'il y a beaucoup de zones blanches. Quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui pour compenser une partie des difficultés, c'est aussi la création de lieux intermédiaires, de lieux de rassemblement, de ce qu'on appelle des tiers-lieux, qui sont peut-être plus faciles à connecter et aussi qui permettent de me faire un peu de collectif dans des travaux, dans des formes professionnelles individuelles à la campagne.
Claire Desmarpoyer sur cette question, parce que effectivement, une des questions qui a été posée par Raphaël Languillon-Vaucelle tout à l'heure, c'est si c'est pour que la campagne s'urbanise, ça n'est pas non plus un choix formidable.
Non, mais moi, ce que je défends clairement, c'est un mode de vie plus simple. C'est celui dont parle Fanny Hugues aussi, c'est-à-dire un mode de vie qui repose sur l'autonomie et sur l'entraide, où on vit l'emploi différemment parce qu'on a moins la nécessité d'avoir accès à un niveau de revenu élevé pour avoir une qualité de vie qui est importante, et où du coup, on fait des choix de vie. Et donc, bien sûr que l'exode urbain, s'il prend ce que je souhaite, un tour important, si c'est massif, il y aura une pluralité de profils sociologiques, de choix de vie. Effectivement, il y a des gens qui ne changeront pas leur carrière professionnelle, puisqu'ils pourront télétravailler ou changer juste leur panel de clientèle, parce qu'en fait, on a besoin de tous les services, on a besoin de tous les métiers en zone rurale, et y compris des métiers de la tech, y compris des métiers du soin. Enfin, la projection d'un emploi strictement agricole en zone rurale est complètement faux. La perspective qu'il n'y ait pas d'emploi en zone rurale aussi, c'est faux. Il y a des zones qui sont plus sinistrées que d'autres, mais en fait, globalement, les communes rurales ont plus d'emplois par habitant que les zones urbaines. Donc aujourd'hui, ça n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'emploi en zone rurale. Et en fait, il y aura une pluralité de... Après, il y a aussi un élément important dans l'emploi, c'est la pluriactivité, qui est quand même un élément très important structurellement de l'emploi rural.
Bah, il faut rappeler tout de même que historiquement, il faut rappeler effectivement, Claire Desmarpoyer, que c'était le propre du rural, que justement de maintenir jusqu'en gros les années 1930, 40 ou 50 du XXe siècle, maintenir une pluriactivité. On était un peu ouvrier à l'usine quand il fallait le faire, comme par exemple les travaux des champs ne vous accompagnaient pas, ne vous obligeaient pas à être au champ, et également on avait une ferme par exemple avec quelques bêtes.
On était dentelière, on était artisan, donc je pense qu'il y a cette notion de pluriactivité existe toujours. Après, on pose beaucoup la question de la néo-ruralité et néo-paysannerie, puisque ce serait la même chose. Je pense que là aussi c'est une iconographie qui limite la capacité des gens à se projeter dans la néo-ruralité. En fait, il y a autant de néo-ruraux qu'il y a de projets de vie, et donc il est absolument pas nécessaire de cocher toutes les cases de maison autoconstruite, maison individuelle autoconstruite ou éco-rénovée. potager en permaculture, etc. En fait, en vérité, chacun vit sa néo-ruralité comme il l'entend et en fonction de son parcours de vie. Et c'est parce que c'est pluriel que c'est riche pour les territoires.
Et justement, malgré tout, sur ce point, un aspect qu'on a aussi également assez peu abordé est la question de l'impact, et notamment l'impact environnemental de cet exode urbain ou de ces flux de population. Il y a eu beaucoup de travaux sur le sujet, notamment sur l'imperméabilisation des sols, la consommation en pétrole liée au transport et à des temps de transport plus longs. Peut-être sur ce point, Raphaël Languillon-Haussel, votre avis sur la question, et notamment sur les impacts environnementaux, est-ce qu'ils sont inéluctables ?
Alors, c'est vrai que j'ai des réserves par rapport à deux points, c'est les impacts environnementaux et puis la question sociale. Alors, parce que quand on pense exode urbain, le terme exode suppose des mouvements importants.
Massifs, ouais.
C'est pas juste quelques milliers, c'est quelques centaines de milliers ou quelques millions de mouvements d'individus. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, deux réserves à ce sujet. La première réserve, c'est au niveau social. Je ne voudrais pas que cet exode urbain, pour aller dans les espaces ruraux et pour les développer, soit une sorte d'alibi à la fermeture sociologique des métropoles, qui seraient en fait des espaces réservés aux riches, aux classes socio-professionnelles supérieures, et les espaces ruraux, des enclaves à individus avec des ressources plus fragiles, plus modestes, etc. Ça, c'est la première réserve. La deuxième réserve, effectivement, c'est que cet exode éventuellement urbain, auquel je crois quand même assez moyennement, ne doit pas se faire contre toutes les politiques de développement durable qui se sont faites depuis les années 90, et même avant, même si le terme date essentiellement des années 90, en particulier tout ce qui concerne la préservation des ressources, la préservation du foncier, la limitation des déplacements motorisés individuels, se face à rebours de la transition écologique des territoires, en particulier leur décarbonation.
Est-ce que vous avez noté, Fanny Hugues, dans tous les endroits où vous êtes rendue pour préparer votre thèse justement sur le vivre de peu en zone rurale, des endroits où on prenait en compte justement cette arrivée de cette population peut-être plus difficile, ou l'existence de cette population qui avait des difficultés à vivre en zone rurale, et d'autres endroits où c'était moins pris en compte par les collectivités territoriales, par les aides locales, etc. Et donc des territoires qui étaient différenciés, pourrait-on dire, vis-à-vis de ce problème social, Fanny Hugues?
Pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai pu vraiment observer. C'est plus certaines revendications de personnes parce que j'ai plus été au contact des personnes que pour l'instant au contact des mairies, des collectivités territoriales. Mais ce qui est notamment ce qui ressort le plus, c'est l'accès à un transport en commun public et gratuit si possible aussi, notamment face à des gares TER qui ferment.
Et effectivement, c'est ce qu'on avait vu en se rendant du côté d'Amiens il y a quelque temps pour le temps du débat, où effectivement les collectivités territoriales s'étaient mises en place, avaient mis en place un système de bus très peu cher pour pouvoir permettre de faire de grands cercles et de permettre à plusieurs villages de pouvoir se rendre parfois à la capitale. Pierre Pistre, est-ce que ce mouvement auquel on assiste ou on assisterait, on a bien compris qu'on ne sait pas si on est encore dans le wishful thinking ou dans la réalité sociologique.
Ouais, peut-être déjà en partie.
Voilà, déjà en partie. Est-ce que ce mouvement serait simplement européen, mais on dit aussi qu'à New York, les gens veulent quitter la ville, etc., etc. Est-ce que
c'est une question difficile, effectivement, mais il y en a déjà des constats avant même de parler de la situation Covid exceptionnelle. Il y a dans les études rurales internationales pas mal de gens qui montrent qu'il y a des phénomènes comparables qui se jouent dans les pays du Nord, mais voire aussi dans certains pays du Sud, des phénomènes, en tout cas d'exode rural, qui sont pas aussi linéaires que ce qu'on peut lire la plupart du temps, avec ces phénomènes inverses, parfois sur certaines en Chine, dans certains pays africains. Mais voilà, c'est des choses qui restent plus mineures que ce qu'on observe dans les pays du Nord, européens comme États-Unis ou d'autres.
Merci beaucoup Pierre Pistre, merci aussi à Raphaël Languillon-Haussel, vous êtes les deux participants à la discussion et au débat du Dranche. Le numéro du Dranche s'appelle donc sous-titre « Contre les idées reçues pour une opinion éclairée », c'est votre numéro d'été, et c'est « On s'arrête et on réfléchit », c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir avec vous Florent Guignard.
Tout à fait, vous pouvez retrouver ce débat gratuitement, comme tous les autres débats d'ailleurs, sur le site internet du Dranche, ledranche.fr.
Et merci pour compléter justement ce premier panel que vous aviez fait pour votre journal, à Fanny Hugues d'être venue. Donc je rappelle que vous êtes en train de travailler à votre thèse de sociologie justement sur les vivre de peu en zone rurale. Et merci à vous Claire Desmarc-Poirier, autrice de Exode urbain. Votre livre paraît bientôt ?
Oui, il paraît le 25 août.
Voilà, donc c'est pour le mois prochain, manifeste pour une ruralité positive.
Merci.
C'était le temps du débat. Sophie Alavi, Pascaline Bonnet, Nicolas Berling, Mathilde Thon-Fourcade et Audrey Dugas. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. À la réalisation, Anne de Pelchin. Demain, le temps du débat traitera de l'affaire Darmanin. Peut-on maintenir une exception française? Et pour le reste, eh bien, demain matin, vous pourrez écouter les matins de France Culture. Chloé Cambrelin et ses invités traiteront de la Chine et des droits de l'homme.